Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon révérend père et bien cher frère, il y avait un homme dans la terre de Ous, simple et droit et craignant Dieu, que Satan demanda de tenter. Et il fit périr tout ce qui lui appartenait, et il frappa sa chair d'une plaie funeste. Voici en résumé le texte de l'offertoire que nous allons chanter, qui est donc extrait du fameux livre de Job. Et donc Héranger nous dit que cet offertoire nous donne un peu le sens de ce dimanche. Parce qu'en effet, l'Église s'avance vers le dernier dimanche de l'année, le dimanche du jugement dernier. Et comme une mère, eh bien, elle considère le malheur des humains. Le malheur des humains. Le monde est comme, dit donc Héranger, le monde est comme le saint Job, réduit à une grande détresse. Nous le constatons. Le mal est dans le monde. C'est le spectacle de la maladie, de la mort, de l'injustice, de la guerre. Le spectacle de la persécution des innocents et du triomphe de l'iniquité. C'est ce scandale qui fait dire au psalmiste, « C'est en vain que j'avais gardé mon cœur pur, que j'avais lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours je suis frappé, chaque matin je suis châtié. À quoi bon la vertu, à quoi bon l'espérance, puisque le mal ne cesse de s'étendre ?» Et c'est ce que nous voyons tous les jours. C'est ce scandale, c'est cette question qu'ont tenté d'exprimer depuis le début de l'humanité tous les poètes et tous les écrivains de toutes les civilisations. Et toutes les religions, toutes les philosophies ont tenté d'apporter leur réponse ou leur absence de réponse. Et leur contradiction ne fait qu'ajouter au scandale qu'elles prétendent expliquer. On entend tout et le contraire de tout. De l'optimisme rationaliste de Leibniz jusqu'à l'absurde de Sartre. De la révolte nietzschéenne jusqu'à la résignation du nirvana bouddhique. Et les catholiques, et bien malheureusement les catholiques se taisent, semble-t-il. Ils se laissent enfermer dans la problématique moderne et ils ont peur, ils ont honte de leur propre lumière, la lumière émise sous le boisseau. La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ à ce problème du mal, nous prétendons, nous, ici, la connaître, et nous pouvons nous demander, à l'occasion de ce dimanche, si nous l'avons comprise dans toute sa profondeur. L'avons-nous vraiment comprise? En percevons-nous les conséquences ultimes? N'y a-t-il pas bien souvent, dans l'esprit de beaucoup, une représentation caricaturale de la doctrine de notre Seigneur? On dirait que l'Église nous appelle à une résignation d'esclaves. On se complaît dans la description physique des souffrances de l'homme Jésus. Et alors il s'agit, semble-t-il, on dirait qu'il s'agit de se complaire également dans un état de douleur, dans un écrasement, en attendant une récompense hypothétique après la mort. Eh bien, telle n'est pas la véritable lumière du Christ, telle n'est pas la véritable doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Une première réponse nous est donnée précisément par les chants de cette messe. L'exemple du saint homme Job, dont l'offertoire ne contient qu'un tout petit extrait, mais qui fait allusion, bien évidemment, à la totalité du livre. Et puis également l'exemple du juif Mardoché, dont on chante les paroles pendant l'intro 8. Eh bien, cette première réponse, c'est d'adorer en tout les décisions de la Providence, d'accepter, d'ignorer les desseins de Dieu, et de se soumettre à sa volonté, volonté que nous ne pouvons pas connaître. Une telle soumission, une telle obéissance à la Providence est du reste déjà présente dans la sagesse antique. Tu es ici-bas pour obéir au Dieu, pour prendre en bonne part tout ce qui t'arrive et pour y acquiescer volontairement et de tout cœur comme à des choses qui viennent d'une Providence très bonne et très sage. C'est ainsi que s'exprime le stoïcien Épictète dans son Enchiridion. Et il dit par ailleurs, « Le sage sauve sa vie en la perdant. » C'est admirable sans doute, mais il manque encore quelque chose. Il manque d'abord la paternité divine, car non seulement nous nous soumettons à la Providence, mais nous savons que Dieu est un Père qui nous aime. Néanmoins, cette attitude des stoïciens est admirable, certes. Admirable plus qu'imitable. Admirable plus qu'imitable, parce que lorsque le deuil ou la misère frappe une famille, lorsque la guerre, l'injustice, la destruction de l'Église, la destruction de la chrétienté nous entoure et sont sous nos yeux, eh bien ces sentences sont une faible consolation. Alors il faut dire autre chose, il faut dire plus. Comment pourrions-nous, non pas exposer, ce serait beaucoup trop long, mais comment pourrions-nous résumer En quelques mots, la doctrine de notre Seigneur, eh bien, on pourrait dire que la croix transcende la douleur. La croix transcende la douleur, c'est-à-dire qu'elle ne la supprime pas, qu'elle n'est pas une évasion ou une lâcheté, mais elle l'élève, elle la transforme, elle en fait une gloire et une résurrection. Comment cela ? Parce que la croix et la souffrance sauvent le monde et que la croix et la souffrance conduisent à la résurrection. La croix et la souffrance dans la croix sauvent le monde. Comment cela ? C'est que l'amour et la douleur vont de pair. La douleur d'un ami augmente l'amitié. Nous pouvons faire appel à notre propre expérience. La douleur vécue dans l'amour renforce l'amour. Le véritable amour grandit dans la douleur. La force de l'amour paraît dans la souffrance. Il n'y a pas d'amant qui ne soit un martyr, dit le bienheureux Henri Suzeau. Pour le chrétien, la douleur se vit avec Jésus-Christ, avec et dans la croix de Jésus-Christ. Et donc l'amour de Jésus-Christ grandit dans la douleur, et le désir de la douleur grandit avec l'amour de Jésus-Christ. La souffrance du chrétien est une souffrance vécue avec Jésus-Christ sur la croix, par la croix et dans la croix. Cette souffrance devient celle de Jésus-Christ. La douleur du chrétien s'incorpore à celle de Jésus-Christ. Elle fait une avec la passion du Christ. La souffrance du chrétien devient celle de Jésus-Christ. Et la souffrance de Jésus-Christ sur la croix devient celle du chrétien. Et c'est pourquoi Sainte Félicité pouvait dire en toute vérité à son gardien, alors qu'elle gémissait dans les douleurs de l'enfantement, « Maintenant, c'est moi qui souffre. » Mais là, demain, dans mon supplice, ce sera Dieu qui souffrira à ma place. Et c'est pourquoi le bienheureux Henri Suzeau, dominicain du XIVe siècle, disait « Il me semble en vérité que même si Dieu devait, après cette vie, donner la même récompense à ceux qui ont souffert et à ceux qui n'ont pas souffert, il faudrait cependant embrasser la souffrance uniquement à cause de la ressemblance que par elle, nous avons avec le Christ. L'amour cherche à ressembler à son amour, et l'âme aimante le cherche où elle peut et quand elle peut. Alors, dans l'amour de la croix, la souffrance du chrétien devenant celle de Jésus-Christ possède la puissance de la souffrance du Christ. Elle possède la force de la croix. Elle devient rédemptrice. Et c'est pourquoi le chrétien offre ses souffrances en union à la croix du Christ, pour la rédemption du monde, pour la conversion des pécheurs et pour la victoire de l'Église. Sur la croix, le Christ s'offre avec son corps mystique, avec tous les chrétiens. Et toutes les souffrances vécues dans l'amour, dans la charité, y sont offertes, les nôtres aussi, bien sûr. Et c'est ainsi que le monde est sauvé aujourd'hui. La croix transcende la douleur, c'est-à-dire que la croix rend la douleur rédemptrice et victorieuse. Et le mal devient ainsi source de victoire. La croix transcende la douleur aussi parce qu'elle est une résurrection. La douleur devenant celle du Christ conduit à la résurrection. Le Christ mort ressuscite. Le chrétien meurt dans la souffrance avec le Christ et il ressuscite avec lui. Le chrétien meurt, c'est-à-dire qu'il est purifié de ses fautes. Il devient un or pur dans le creuset de la souffrance. C'est comme un or impur que l'on mettrait dans un foyer, dans un feu, et le feu brûle les impuretés, et il ne reste plus que l'or. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre âme. Les obstacles sont détruits, la vie surnaturelle s'épanouit, le chrétien ressuscite à la grâce, et il accomplit en lui la mort et la résurrection du Christ. Uni au Christ dans la croix, il lui est uni dans la résurrection. Il faut, si tu veux vraiment parvenir à ma pure divinité, fait dire Henri Suzeau à notre Seigneur, il faut, si tu veux vraiment parvenir à ma pure divinité, que tu passes d'abord par mon humanité souffrante et que tu t'y conformes. Parce que la vie du ressuscité devient la vie du chrétien. La douleur est transcendée, c'est-à-dire que la douleur devient divinisatrice. La douleur n'est plus douleur, elle s'épanouit en gloire. Et c'est pourquoi les martyrs ne sont pas écrasés par la souffrance. Il n'y a pas chez les martyrs de désespoir, de révolte. Il n'y a pas non plus d'orgueil, il n'y a pas d'insensibilité stoïcienne. Mais il y a déjà la paix de la résurrection, la certitude de la victoire. Nous pouvons le lire dans tous les actes des martyrs. Le martyr échappe aux persécuteurs. Il le domine. Il est déjà au-delà. Sans mépris, sans vanité, il peut cependant s'en moquer. Et c'est ce qui fait dire à Saint Laurent, en s'adressant à son bourreau, « Eh bien, voici, misérable, que tu as rôti un côté, tu peux me retourner et manger l'autre. » La récompense est déjà là. Elle n'est pas seulement après la mort, elle est déjà là, dans la vie surnaturelle, dans la vie de la grâce. Et le surhomme, le véritable surhomme, il est là. Il est là sur la croix, avec Jésus-Christ, ressuscitant avec Jésus-Christ, divinisé par Jésus-Christ. Et c'est ce qui explique que parfois, dans la liturgie, nous avons des Alléluia très développés qui ont été composés dans des périodes difficiles, dans des périodes de persécution de l'Église. C'est ce qui explique aussi que dans les crucifix sculptés au Moyen-Âge, on représente souvent notre Seigneur portant la couronne dans sa majesté. Et on veut par là exprimer cette union qu'il y a entre la croix et la résurrection. Et on est peut-être plus proche de la vérité. Ainsi donc, l'Église a la réponse au problème du mal. Ce n'est ni le désespoir, ni la révolte, ni une soumission d'esclave, pas seulement une adoration de la Providence, mais rédemption et résurrection en Jésus-Christ. Cette doctrine, nous la connaissons bien sûr, nous en saisissons la grandeur, nous savons quelle est notre voie, mais hélas, nous ne la vivons pas, ou pas suffisamment. Elle nous semble un idéal inaccessible, elle nous semble une théorie, et nous en sommes en pratique très éloignés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi savons-nous que la croix est notre voie, que notre résurrection, notre victoire, notre divinisation passe par la croix, et pourquoi nous tenons-nous à une telle distance de la croix? Pourquoi en avons-nous peur? Pourquoi ne la voulons-nous pas? Eh bien, la réponse est simple, c'est parce que nous n'aimons pas suffisamment. L'amour n'est pas aimé, disait déjà saint François. C'est que la croissance de l'amour vient avec l'offrande de la douleur. Ce qui fait qu'il nous reste moins à comprendre ce mystère de la croix et de la souffrance qu'à le vivre. Et c'est en le vivant que nous le comprendrons et que nous l'accepterons. C'est dans la mesure où nous en vivrons que nous comprendrons ce mystère de la douleur et de la croix. Et là, ce n'est plus à la théologie de parler, mais c'est à l'âme, c'est à la volonté de se convertir, et c'est à l'Esprit Saint d'agir sur nous. Et sans doute sommes-nous confus, déçus, découragés même par notre tiédeur, par notre médiocrité. Il y a en nous cette répugnance naturelle à la douleur, ce qui est bien normal, car nous n'avons pas été créés pour la souffrance et pour la mort. Et notre amour du crucifié est trop faible pour nous faire accepter sa croix intégralement. Notre vie est une longue montée vers le calvaire, longue, trop longue pour nous. Nous voudrions, ou plus exactement, nous avons quelques velléités pour être des saints tout de suite, dans la jeunesse, à l'exemple de saint Dominique Savio, ou à l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien non. Là encore, il nous faut accepter le plan de la Providence sur nous. Tout en nous efforçant sur les voies de la sainteté, il nous faut accepter d'être transformés par la grâce, lentement, comme Dieu voudra. Notre Seigneur disait déjà à Nicodème, « L'Esprit souffle où il veut, et on ne sait d'où il vient ni où il va. » C'est le mystère de la distribution des grâces. C'est le mystère de nos itinéraires vers le calvaire, itinéraires qui sont tous différents, mais qui aboutissent tous à la communion, à la croix. Ce mystère, Marie en est l'intendante, et nous pouvons alors nous tourner vers elle pour lui demander de nous aider à y entrer. Nous pouvons nous attendre à ce qu'elle nous y introduise. Nous honorons la Très Sainte Vierge du titre de Notre-Dame de Compassion, parce qu'elle l'a vécue de manière admirable, parce qu'elle a offerte la passion de son propre Fils, totalement. Elle n'a rien gardé pour elle, elle s'est donnée totalement dans l'offrande de son Fils. C'est donc elle qui nous éduquera, c'est elle qui nous conduira, qui cheminera avec nous sur cet itinéraire vers le Golgotha. Mais n'oublions pas que si elle est Notre-Dame de Compassion, elle est aussi reine et elle est aussi immaculée. Son cœur est douloureux et immaculé. Celle qui souffre avec le Christ est celle qui est à la plus grande intimité possible avec la très sainte Trinité. C'est celle qui, comme dit saint Bernard, comme moritur cum Christo, c'est ce qui meurt avec le Christ, c'est en même temps celle qui vit avec la Trinité, qui est en Trinité. C'est elle qui est notre voie, c'est avec elle que nous cheminerons par la croix vers la Trinité, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous ne trahirons pas le Christ. Nous refusons cette apostasie, nous refusons cette trahison, trahison de l'Église et trahison de nos patries. Car nous savons que le salut de nos patries passe par la rédemption, passe par le Christ. Cette doctrine du Christ-Roi, nous la tenons et nous la prêchons, et nous savons que la vérité est forte par elle-même et qu'il n'y aura pas d'autre solution au salut de la société que la restauration de la chrétienté. Et que faire concrètement alors, aujourd'hui ? Eh bien, d'abord prier. Prier parce que nous savons que tous les actes humains dépendent en définitive de Dieu. Priez donc, priez Notre-Dame du Rosaire, priez la Vierge de Lépante. Car nous ne devons pas oublier que ce qui est vrai de l'action politique, que ce qui est vrai de l'action apostolique, ce qui est vrai de l'action apostolique est aussi vrai de l'action politique, à savoir qu'elle doit être le fruit de la vie intérieure. Une action politique qui n'est pas fondée sur la vie intérieure est vouée au départ à l'échec. Priez, mais agir également. La piété est utile à tout, mais elle n'est pas suffisante. On dit bien parfois que le rosaire est un fusil à 50 coups. Sans doute. Mais je doute fort que nos amis du Liban se contentent de ce fusil-là. Alors que faire ? Eh bien, se souvenir que le pouvoir ne se prend pas, mais il se reçoit. Or, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, les catholiques n'ont pas parmi eux suffisamment d'hommes capables de s'imposer par leurs compétences doctrinales, professionnelles, économiques et politiques. La piété ne suffit pas. La première tâche sera donc pour nous de former des élites. De former des élites qui le soient non seulement par la piété, qui le soient d'abord par la piété sans doute, mais non seulement par la piété, mais aussi par leurs compétences. Compétences en premier lieu dans leur devoir d'État, et puis compétences doctrinales, compétences dans l'aptitude au gouvernement. Alors ces élites pourront un jour, peut-être pas si éloignées, assumer des responsabilités qu'on sera trop heureux de leur confier quand il deviendra évident qu'ils seront les seuls, par le Christ et par la doctrine sociale de l'Église, à pouvoir sauver la société du désastre. Élites qu'il faut former, que ce soit dans les mouvements de jeunesse ou que ce soit dans des cercles de chefs de famille. Que des chefs de famille se réunissent pour étudier la doctrine de l'Église et pour se concerter sur la situation politique de leur pays. Ce sont là des réalisations concrètes qui porteront de fruits dans l'avenir. Et Pie XII n'a fait autre chose pendant tout son temps pontificat que d'appeler à la constitution de ces cercles de chefs de famille. Se souvenir aussi que l'action requiert de bannir toute attitude de sectarisme. Pour cette restauration de la chrétienté, nous devons pouvoir compter sur tous les hommes de bonne volonté. N'oublions pas que certains agnostiques ont plus fait pour la royauté du Christ que certaines pieuses personnes. En ce monde, ici-bas, rien n'est absolument pur, à part la vie intérieure. En ce monde, rien n'est absolument pur, rien n'est absolument saint. À ne vouloir que la perfection, surtout en politique, on se condamne au sectarisme, à l'isolement et à l'échec. La cité médiévale s'unissait dans la construction des cathédrales. Aujourd'hui, ce n'est pas une cathédrale de pierre qu'il faut construire, parce qu'il faut d'abord construire la cathédrale politique avant de construire la cathédrale de pierre. Puisse-t-il y avoir en nous cette énergie des grands bâtisseurs, cette force, cette charité en un mot, qui est le principe de la divinisation du monde ? Charité. Charité personnelle sans doute, mais aussi charité politique. Oui, charité politique, le mot est des souverains pontifes eux-mêmes. Charité politique qui fera de la cité terrestre la préparation de la cité céleste, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous constatons que le nom de Jérusalem revient fréquemment dans la liturgie de ce jour. L'état de Jérusalem, chantions-nous. Le graduel y fait allusion, l'etatus sumis que dicta sunt mihi, joie du départ pour la maison du Seigneur. Le trait aussi célèbre la confiance et la sécurité dans la solidité et la permanence de Jérusalem. Non como vebitur qui habitat in Jérusalem. Et la communion conclut aussi Jérusalem qui edificatur ut civitas. Jérusalem bâtie comme une ville. Cette Jérusalem, dont la liturgie célèbre ainsi la joie, la paix, la sécurité, la solidité, cette Jérusalem, nous le savons, n'est autre que l'Église. Et telle est bien la signification qu'en donne l'épître de saint Paul. Saint Paul oppose la Jérusalem juive, esclave, à la Jérusalem d'en haut, dont nous sommes les fils. Jérusalem libre, mère des fils de la promesse. Jérusalem, dont ont parlé les prophètes, nous avons chanté une parole d'un prophète à l'introïte. Et le même Isaïe dit ailleurs, la montagne de la maison de Yahvé sera établie à la tête des montagnes, élevée au-dessus des collines, et vers elle toutes les nations afflueront. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, et spécialement l'Apocalypse, la tradition constante, et spécialement cette magnifique liturgie de la dédicace, représente l'Église comme une ville, comme une cité, comme une forteresse puissante, libre, indestructible. Et alors, la liturgie de ce jour célèbre plus spécialement la paix, la sécurité, la joie de l'Église dans sa puissance et dans sa force. Et c'est pourquoi les chants de cette messe sont empruntés en très grande partie au psaume des degrés, qui célèbre la ville vers laquelle les pèlerins juifs se rendaient. Et la rose d'or qui est bénie dans la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem, qui est un peu le thème de la liturgie d'aujourd'hui, est le symbole de cette joie de l'Église. Alors nous nous demandons, d'où vient la puissance, d'où vient la sécurité, d'où vient la joie, d'où vient la paix de l'Église? La liturgie la compare à une cité. D'où vient la puissance? D'où vient la sécurité d'une cité, d'une forteresse? D'où vient la sérénité et la confiance dans ses murs? Eh bien, tout cela vient de la cohésion, de l'unité. De l'unité matérielle des murailles, comme le dit l'antienne de communion. Jérusalem, Jérusalem est bâtie comme une ville dont toutes les parties sont unies et liées ensemble. Unité matérielle des murailles, mais aussi et surtout, bien sûr, unité morale, unité spirituelle. La cohésion et l'unité des murailles est le signe de l'unité intérieure et ne pourrait rien sans elle. Joie de l'Église donc dans son unité, source de sa puissance. D'où vient l'unité de l'Église? En quoi consiste l'unité de l'Église? Cette unité provient bien sûr de la croix de notre Seigneur. L'Église est issue de la croix de notre Seigneur. Son existence vient de la croix de notre Seigneur. Son unité vient de la croix de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, au moment où l'économie de la croix se déploie dans l'histoire du monde, quels sont les principes de l'unité de l'Église? Quels sont les principes de l'existence de l'Église? On peut voir cela de différentes manières. On pourrait montrer comment le sacerdoce et principe de l'unité de l'Église. On pourrait montrer comment l'Eucharistie, le très saint sacrifice, est principe de l'unité de l'Église. On peut dire aussi que la charité est principe de l'unité de l'Église. Et c'est aujourd'hui à ce dernier point que je voudrais m'arrêter. La charité constitue en un sens l'unité de la Sainte Église. La charité constitue l'unité de l'Église comme l'amitié et le bien commun constitue l'unité d'une société. Une société, en effet, n'est véritablement unie que lorsqu'il y a des liens d'amitié entre ses membres. Et la charité est une amitié. La charité est l'amitié qui unit les membres de l'Église, les membres du corps mystique, à leur tête, le Christ, et entre les membres eux-mêmes. La charité, c'est l'amour trinitaire. La charité, c'est l'amour dont vivent les trois personnes divines qui nous habitent. Caritas Dei diffusa est in cordibus dostris per spiritum sanctum quidatus est nobis. La charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous habite, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La charité, c'est l'amour divin par lequel nous aimons Dieu, par lequel nous aimons son Fils Jésus, Verbe incarné, pour nous faire connaître cet amour et pour nous y faire entrer. La charité, c'est premièrement et essentiellement l'amour de Jésus-Christ. La charité, c'est l'amour pour Jésus-Christ. La charité, c'est l'union de notre âme avec Jésus-Christ. Être membre de l'Église, être incorporé au Christ, être uni au Christ en toute plénitude, cela se fait par la charité. Et la foi ne suffit pas. Les membres de l'Église sont unis à sa tête, vivent de la vie de sa tête par cette union d'amour, par l'union de charité. La religion est pour cela, pour nous unir à Jésus. Et cette union d'amour se diffuse alors entre les membres eux-mêmes. La charité envers le prochain, nous le savons, n'est autre que la charité envers Dieu, même si les actes sont différents. Telle est l'unité de l'Église, union d'amour, union de charité des chrétiens à Jésus-Christ et des chrétiens entre eux, union par un amour qui n'est pas un amour humain, qui n'est pas une philanthropie, qui n'est pas une amitié sentimentale, mais un amour divin. Mandatum novum do vobis, ut diligatis in vicem, sicut dilexivos. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire par cet amour divino-humain dont je vous ai aimé. Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me et ego in te. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. L'unité de Jésus avec son Père doit être aussi notre unité entre nous et l'unité avec Jésus. Et de cette unité d'amour découle la joie. La joie est un fruit de la charité, car vivre dans l'amitié de Dieu, vivre dans la présence de Jésus-Christ, vivre dans la présence de celui qu'on aime, vivre dans l'amitié les uns des autres, vivre auprès de ses amis, c'est déjà posséder le bien suprême, c'est déjà posséder le bonheur, c'est être dans la sécurité et dans la paix. La véritable joie est dans l'amitié, dans la charité divine qui nous unit à Jésus-Christ et qui nous unit entre nous. Telle est la joie de l'Église, telle est l'unité de l'Église, telle est sa force, telle est sa puissance. Si la charité se refroidit, c'est la division et la tristesse. Si la charité s'enflamme, c'est l'unité et la joie. Ecce quam bonum et quam jucundum. Qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. Car ce qui est vrai de l'Église universelle est vrai aussi de toute partie de l'Église, de tout membre, de tout organe de l'Église, et en particulier donc de toute famille, de toute communauté et de tout séminaire. Tel est le témoignage que nous devons rendre au monde. Inoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, directionem abueritis ad invicem. C'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Unum sint, ut credat mundus, quia tu me missisti. Que tous soient un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que la charité et la joie qui résident dans une communauté manifestent que cette communauté est de Jésus-Christ, manifestent sa vérité et sa divinité. Et tandis que le monde est envahi par la tristesse et par l'égoïsme, tristesse et égoïsme qu'il essaye de cacher en s'aveuglant par le bruit, par l'excitation, nous, nous rendons témoignage de la vérité de notre doctrine, de la vérité de notre religion, par la charité et la joie qui règnent entre nous. Du moins, tel est l'idéal. Tel est notre idéal. Eh bien, essayons de vivre cet idéal. Et prenons garde à l'illusion. Prenons garde à l'illusion, car on peut très bien vivre côte à côte, pendant des journées, des semaines entières, dans une ignorance et une indifférence réciproques. Et c'est alors que la vie commune peut devenir onéreuse, pénible et insupportable. Il suffit que la charité existe dans les cœurs et puis se manifeste dans les actes, dans l'attention, dans les paroles, dans divers actes de charité et en premier lieu dans la politesse qui est la fleur de la charité, pour qu'alors la vie commune, au lieu d'être un obstacle, devienne un moyen et une source de joie. Ce qui est vrai d'une communauté religieuse est également vrai d'une famille. Une famille, une communauté, un séminaire doivent être des écoles de charité, c'est-à-dire les lieux où l'on apprend la charité, où l'on la connaît et où on la vit. Et c'est là que se trouve leur unité et leur joie. Ainsi donc, la charité comme amitié est principe de l'unité de l'Église et principe de l'unité de toute communauté chrétienne. La charité également est principe de l'unité comme bien commun. Car en un sens, on peut dire que la charité est le bien commun de l'Église. L'Église a en vue de donner à ses membres la charité. C'est par l'Église, et c'est dans l'Église, que la vie de charité, qui n'est autre que la vie de la grâce, nous est donnée, qu'elle peut se développer et s'épanouir. L'Église cherche à s'unir toujours davantage à son époux. Elle poursuit toujours cette fin qu'elle n'atteindra pleinement que dans la parousie. Alors, dans cette parousie, l'agneau sera présent dans la cité sainte, tel qu'il est. Je ne vis pas de temple dans Jérusalem, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, en est le temple, ainsi que l'agneau. C'est parce qu'elle est toujours en quête de Dieu, c'est parce qu'elle désire toujours que ses membres possèdent davantage la charité que l'Église peut se dire en progrès, que l'Église peut se dire en marche. Non que la croissance en sainteté suive le déroulement de l'histoire, tant s'en faut. On peut même craindre le contraire, puisqu'il nous est dit que la charité de beaucoup se refroidira. Non que l'Église soit soumise à un progrès évolutif qui en modifierait la nature. L'Église, pas forcément, hélas, les hommes d'Église, mais l'Église en elle-même veut la plus grande charité. Elle est en vue de la charité consommée. Elle regarde vers les noces mystiques avec son époux. Et c'est pourquoi elle chante sa joie dans son voyage vers l'union d'amour. L'etatus suminis quae dicta sunt mihi. La Jérusalem de la terre aspire vers la Jérusalem du ciel. Cette Jérusalem du ciel vers laquelle nous aspirons tous, Jérusalem où tous les signes feront place à la vision face à face. Cette Jérusalem du ciel est la fin dont la recherche unit l'Église. Et c'est pourquoi on peut dire en ce sens que l'Église est en recherche. Car Jérusalem, la Jérusalem du ciel, nous n'y sommes pas encore. Eh bien, c'est ainsi que la charité est aussi principe d'unité. Car nous recherchons tous cette Jérusalem du ciel, nous recherchons tous cette charité sublime. Et en toute communauté, en toute famille, il doit y avoir cette tendance joyeuse vers la Jérusalem du ciel. Là encore se trouve l'unité. Une communauté qui n'a plus d'idéal, plus d'enthousiasme, qui est trop satisfaite d'elle-même, est une communauté qui meurt et qui se désunit. Il faut avoir ce sens de l'enthousiasme. Il faut avoir ce zèle pour la charité. Il faut avoir ce zèle pour la sainteté. Et c'est ainsi qu'une communauté peut être unie par la charité. Et pour cela, de manière plus concrète, je dirais qu'il faut avoir simultanément le sens de la perfection et le sens de l'imperfection. Il faut avoir le sens de la perfection, c'est-à-dire que toutes les charges, que tous les offices qui composent une vie commune soient accomplis avec zèle, non pas dans un esprit de fonctionnaire attendant la pré-retraite, mais en tendant au plus parfait, pour le seul amour de Dieu, non pour la gloire, non pour attendre des félicitations, mais par pure charité. Avoir le sens de la perfection. Et aussi avoir le sens de l'imperfection. En effet, combien de fois ne nous arrive-t-il pas de nous assister, de nous livrer à l'amertume, à la dissension, à la désunion, à cause de l'échec, à cause de la médiocrité, à cause de la négligence, à cause de l'incompétence. Eh bien, si nous nous livrons à l'amertume et à la division à cause de cela, nous oublions que nous ne sommes pas encore dans la Jérusalem du ciel. La nature humaine, même avec la grâce du sacerdoce, demeure la nature humaine. Et s'en étonner, c'est vouloir parvenir à la Jérusalem du ciel sans avoir combattu dans la Jérusalem de la terre. Et voilà pourquoi l'unité et la joie de l'Église ici-bas, l'unité et la joie d'une partie de l'Église, l'unité et la joie d'une communauté sont toujours mêlées de division et de tristesse. Mais nous savons que nous avançons vers l'unité parfaite. Et c'est pourquoi notre combat sur terre, le combat du carême spécialement, ne doit pas être un combat triste et amer. Le combat chrétien est serein et joyeux, car il possède déjà ce qu'il recherche. L'Église combat, mais elle est déjà forte de sa victoire. Elle marche vers Jérusalem, elle marche vers la croix, mais cette marche est forte et joyeuse dans l'unité de charité. Dans l'unité de charité. Cette unité, nous le savons, vient de la passion du Christ. Notre charité et notre unité dépendent de notre communion à la passion du Christ. Les mystères liturgiques qui célèbrent cette passion se dérouleront bientôt, dans une quinzaine de jours. Nous pouvons alors nous demander s'ils seront pour nous un spectacle ou bien s'ils seront l'expression de notre amitié et de notre amour pour Jésus-Christ. Ces mystères liturgiques seront-ils vécus ou seront-ils simplement observés ? Demandons la grâce de bien les vivre à Notre-Dame de Compassion. C'est à la mère d'éduquer les enfants à l'amour, c'est à Marie de nous éduquer à la charité dans la compassion. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Homo quidam fecit scenam magnam. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le directeur, mes bien chers frères, après nous avoir exposé, après avoir célébré de l'Avent à la Pentecôte l'histoire de notre salut, la liturgie célèbre aujourd'hui, en ces dimanches, l'ensemble des mystères chrétiens qui en découlent pour nous, aujourd'hui. Et en ce dimanche, la liturgie nous présente ces mystères sous l'image du festin, sous l'image de la fête. Homo quidam fecit scenam magnam. Le festin, image fréquente dans l'Écriture, Et de plus, des événements très importants, des mystères très importants, s'accomplissent au cours ou à l'occasion des repas et des banquets. Nous pensons spécialement aux noces de Cana, à la conversion de Marie-Madeleine, à la multiplication des pains, à la conversation entre Marthe et Marie, et bien sûr à l'institution de l'Eucharistie. Pensons aussi à l'apparition aux disciples d'Emmaüs et à la confirmation de Saint-Pierre. Cette image, cette métaphore, ce symbole du repas doit donc nous permettre d'exposer tous les mystères, tous ces mystères qu'aucun langage ne peut convenablement exprimer. Le royaume de Dieu est donc comparable à un festin. Les mystères de notre vie, les mystères de la vie de l'Église, sont donc comparables à un banquet. Et donc, en particulier le plus grand des mystères, le plus grand des sacrements, la très sainte Eucharistie, doit donc pouvoir être contemplé par cette image du festin. Et il est providentiel que cet évangile se situe après la fête Dieu, bien qu'à l'origine la fête Dieu n'exista pas quand ce dimanche fut fixé. Eh bien, toute la tradition, nous le constatons, explique ce sacrement par cette image. Cette image dont nous voyons de nombreuses expositions et de nombreux échos, par exemple dans cette légende, du Saint Graal, où il est dit que le roi et sa cour s'étant mis à table, ils entendirent abrocher un bruit de tonnerre prodigieux, et tous furent comme illuminés de l'Esprit Saint. Et la légende continue, « Après un long temps de silence, le Saint Graal parut couvert d'une pièce de soie blanche. Dès qu'il fut entré, la salle se remplit de bonnes odeurs, comme si toutes les épices de la terre s'y fussent répandues. Et à mesure qu'il passait auprès des tables, elle se trouvait garnie devant chaque convive des mets qu'il désirait. » Eh bien, considérant cette image que la liturgie même nous met sur les lèvres, grâce à saint Thomas d'Aquin, dans l'antienne au Sacrum Convivium, grâce à cette image du banquet, de la fête, eh bien, essayons de contempler ce mystère de l'Eucharistie. Ce mystère de l'Eucharistie comme un repas, comme un banquet. Essayons de percevoir cette image dans toute sa plénitude. Et remarquons-le bien, l'Eucharistie est nourriture, certes, mais cette image, ce symbole nous en dit plus. Il dit que l'Eucharistie est aussi un repas, un banquet sacré. Expliquons-nous. Que l'Eucharistie soit une nourriture, inutile d'y insister, puisque c'est le symbole le plus évident, si l'on peut s'exprimer ainsi. Dans la nutrition naturelle, notre corps s'assimile une nourriture. Ce que nous consommons nous devient homogène, se perd et se fond dans notre corps. La nourriture nous communique une certaine force vitale. La nourriture répare l'énergie que nous avons perdue, elle augmente nos capacités, elle nous fortifie, elle soutient et accroît notre vie. Et sans elle, nous mourrons, sauf miracle. Et bien de même, l'Eucharistie est une nourriture. Ce n'est pas la simple présence du Christ, mais remarquons-le bien, la mendication, la consommation, l'absorption de l'hostie, qui est le symbole et la cause de notre nourriture spirituelle. Et Dieu, dans sa providence, nous a montré des saints qui, par leur vie, manifestaient encore plus et de manière éclatante que l'Eucharistie est des nourritures, puisqu'ils ne vivaient que de l'Eucharistie, même corporellement. Nous pouvons penser en particulier à sainte Catherine de Sienne et à saint Nicolas de Flux. Par cette consommation de l'hostie, notre âme est nourrie de Dieu. Sa vie et notre vie deviennent homogènes pour constituer une seule vie. Mais cette fois, ce n'est plus la nourriture qui est absorbée, mais c'est nous qui sommes absorbés en Jésus-Christ. Comme le dit saint Augustin, « Nectume in te mutabis, sicut cibum carnis tue, sed tu mutaberis in me. » Saint Augustin, ici, donne la parole à Dieu, et Dieu dit, « Tu ne me changeras pas en toi, comme la nourriture de ta chair, mais tu seras changé en moi, car la chair du Christ est la chair de Dieu. » D'où l'importance, bien sûr, pour nous de ne pas faire de communion de routine, car cette union à Jésus-Christ, cette union à Dieu, cette entrée, cette communion dans la Trinité, est proportionnelle à notre désir. Alors où en est notre désir avant la communion? Nous préparons-nous suffisamment à nos communions? N'avons-nous pas souvent l'habitude de faire un acte sans trop y penser? C'est la question que nous pouvons nous poser. L'Eucharistie, donc, nous communique la vie. Mais là n'est pas le seul aspect de la nourriture, parce que la nourriture, ce n'est pas seulement la communication de la vie. La nourriture comporte aussi une certaine jouissance. Et oui, nous ne sommes pas des purs esprits, et l'art culinaire fait partie de la vie et même de la civilisation. C'est un aspect très important. Eh bien, la nutrition doit normalement s'accompagner d'une certaine jouissance. Eh bien, dans l'Eucharistie, mais autrement, bien sûr, il y a cet aspect de jouissance. Jouissance, non pas selon l'amour de concupiscence, mais selon l'amour d'amitié. Jouissance dans la possession de celui qu'on aime. N'est-il pas vrai que dans l'amour humain, la présence de l'ami est le plus grand des bonheurs naturels? Eh bien, dans l'Eucharistie, nous possédons l'objet de notre amour. L'Eucharistie présente à notre charité, à cette charité qu'elle nourrit, elle lui présente l'objet de cette même charité. L'Eucharistie dilote notre amour et lui donne celui qu'elle aime. Dans une étreinte vivante et spirituelle, nous possédons, nous conservons celui qui nous aime et que nous devrions aimer le plus. Et la Sainte Écriture n'hésite pas à utiliser les images de l'amour conjugal dans le livre des Cantiques pour exprimer cette étreinte d'amour entre Dieu et l'âme. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Et l'action de grâce n'est pas autre chose que cette possession de l'époux de notre âme. L'action de grâce, si elle existe bien sûr, est possession de l'époux de notre âme. Dans une action de grâce solitaire et silencieuse, nous pouvons jouir de notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissance spirituelle, bien sûr, et qui donc peut s'accompagner de la douleur et de la désolation, mais jouissance d'amour au sommet de notre âme. Et cette jouissance d'amour a provoqué les extases et parfois la mort des saints. L'Eucharistie est donc échange d'amour, communication de la vie et jouissance amoureuse. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Un banquet, ce n'est pas seulement la consommation d'une nourriture. Nous ne rendons pas suffisamment compte de cette image du repas si nous en restons à la simple nourriture. L'Eucharistie est un repas et un banquet. Cette vérité, galvaudée et déformée aujourd'hui, est cependant traditionnelle. Et si elle se trouve déformée, c'est peut-être parce qu'on a eu peut-être tendance un peu à l'oublier. L'Eucharistie est un repas. Comment cela ? Eh bien parce que le repas unit dans l'amitié et que le repas est un acte social. Le repas est un acte d'amitié. Un homme invite ses amis, une famille ou une société quelconque organise un festin et une fête. Pourquoi ? Pour communiquer une joie, pour entretenir l'amitié et l'unité. Nous lisons par exemple que Abraham fit un grand festin pour le sevrage d'Isaac, ou que Lazare eut la joie de recevoir notre Seigneur et ses apôtres. Et bien que ce soit dans le domaine familial, politique, commercial, voire ecclésiastique, le banquet est une composante nécessaire de l'existence. Et bien il en est de même pour l'Église. Le banquet de l'Église, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie unit les baptisés, et a fortiori, elle unit ceux qui sont marqués ou qui participent du sacerdoce. Elle les unit non pas dans une amitié humaine, elle unit sentimentale, mais dans l'amitié surnaturelle, c'est-à-dire dans la charité. Unus panis, unum corpus multissimus, omnes quide uno pane participamus. Nous sommes un seul pain et un seul corps, nous qui participons d'un seul pain. Et s'exprime ainsi saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et saint Jean Chrysostome commente, « De même que le pain fait de multiples grains est uni si bien que les grains n'apparaissent plus, ainsi sommes-nous conjoints au Christ. » Comme la montée de la sève fortifie et rend l'arbre plus solide, et bien de même la consommation de l'Eucharistie nous fortifie avec celui, nous unit avec celui qui est notre tête, et nous nous en trouvons plus unis entre nous dans la charité. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité de l'Église, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Or, l'unité est par la charité qui unit les volontés en celle de Dieu. Et ce qui est vrai de l'Église est vrai, par conséquent, de la partie de l'Église qui est physiquement présente à la Sainte Messe. La partie de l'Église que nous constituons ici doit être unie par l'Eucharistie. Nous comprenons alors pourquoi la haine, la discorde et la rancune entre ceux qui participent à la Sainte Messe est une insulte au sacrement et à la limite une hypocrisie. La division des cœurs est un obstacle à l'unité de charité et donc un obstacle au sacrement. Il est difficile de l'exprimer, mais on peut voir rien que dans l'accomplissement de la liturgie si c'est l'unité ou si c'est la division qui règne dans une communauté. Car cette unité se manifeste extérieurement dans le rite liturgique. Unité de geste, unité de chant, baiser de paix, lequel baiser de paix n'est pas bien sûr un vulgaire signe d'amitié profane, mais un signe sacré de charité. Le repas, donc, unit dans l'amitié, et l'Eucharistie unit dans la charité. Et sous cet aspect, on peut dire que l'Eucharistie est un banquet. Et puis enfin, le repas, la fête, sont un acte social, et ajoutons, acte hiérarchique, car il n'y a pas de société sans hiérarchie. Notre époque d'égalitarisme, de vulgarité et de grossièreté nous fait oublier une vérité naturelle. Un banquet, une fête, doit comporter un ordre, des préséances, une étiquette et même des civilités qui peuvent aller assez loin dans le détail. Et paradoxalement, ceux qui se trouvent à l'écart de notre soi-disant progrès économique conservent parfois mieux que nous ces traditions. Eh bien, la Sainte Eucharistie est aussi un acte social et hiérarchique. La Sainte Eucharistie n'est pas un acte de dévotion privée. La Sainte Communion, en dehors de la très sainte messe, est une exception, pour cause légitime. Et elle est toujours participation à la Sainte Messe. On ne peut pas concevoir le sacrement de l'Eucharistie indépendamment de la très sainte messe. C'est la même chose. Même à la messe dite privée. La messe dite privée est toujours un acte de l'Église, Église représentée par le prêtre qui officie et par celui qui sert la messe. Nous ne sommes donc pas seuls à la messe. Nous agissons et nous prions de concert avec toute l'Église et avec la partie de l'Église que nous constituons tous ensemble. Il est une piété individualiste qui n'est pas conforme à la tradition de l'Église. Et c'est ce caractère ecclésial et social qui impose la soumission aux rubriques et l'unité liturgique. Rubrique et unité liturgique qui manifestent, et c'est le dernier aspect, le caractère hiérarchique de l'Eucharistie. La position, les gestes, les paroles sont propres à chacun des degrés de la hiérarchie ecclésiastique, de l'évêque au simple baptisé. Comme un banquet bien ordonné requiert des préséances. Ici, c'est le Christ, représenté par l'officiant, qui invite. Et comme un banquet peut comporter des chants, des paroles, diverses activités accessoires et des prolongations spirituelles ou spiritueuses, eh bien ainsi la messe comporte tout un cérémonial distinct de l'essence même du sacrement, mais qui en est le déploiement nécessaire. Tous ces aspects nous montrent la grandeur de cette image du banquet. L'Eucharistie est un banquet parce qu'elle est nourriture, jouissance, principe d'amitié, acte social et hiérarchique. Nous devons la comprendre selon toute la richesse du symbole donné par le Christ lui-même. L'Eucharistie est non seulement nourriture individuelle, mais aussi acte de l'Église, centre et source de sa vie. Elle n'est pas une somme d'actes individuels juxtaposés, mais un seul acte. Contre l'individualisme moderne, qui a détruit notre tradition et qui a conduit au totalitarisme profane que nous connaissons, il nous faut revenir à notre source, l'Eucharistie nourriture, principe de charité et d'unité, acte de l'Église. Le banquet, le convivium où nous invite le Christ, œuvre de son amour, œuvre de son Sacré-Cœur. C'est notre Seigneur lui-même qui a demandé que la fête du Sacré-Cœur eût lieu le lendemain de l'octave du Très-Saint-Sacrement. C'est dire que ces deux fêtes sont intimement liées. Et traditionnellement, on célébrait le lendemain la fête du très pur cœur de Marie. Comprenons alors l'Eucharistie comme une entrée dans l'intimité de ces deux cœurs. Comprenons-nous comme invités à l'intimité de ces deux cœurs dans la très sainte Eucharistie. Réparons dans la très sainte messe et dans la réception du sacrement les indifférences des invités auxquels l'Évangile fait allusion aujourd'hui. Et répondons à l'invitation de la sagesse qui nous dit « Venite comedite panem meum, et bibite vinum quod mis cui vobis. Venez, prenez le pain et buvez le vin que je vous ai préparé. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »